Bonjour à tous. Et puis, merci pour cette lecture. Et vous vous demandez peut-être quand même quel est le lien que l'on peut établir entre ces trois textes, parce qu'à première vue, comme ça, ça ne paraît pas vraiment évident, me semble-t-il. Et cependant, à bien y regarder, on peut vous comprendre que tous traitent d'un seul et même sujet, l'excellence. Le choix de l'excellence, en fait, c'est le titre de cette prédication. Alors, je vais apporter juste une toute petite correction au texte de Paul, puisque je n'ai pas, en fait, dans ma version de Louis II, j'ai un autre terme. À la place de sensibilité, j'ai en pleine intelligence. Et je le précise parce que ça va rentrer dans mon analyse et c'est important. Voilà, alors le premier texte sur lequel s'appuie notre exposé est tiré de la lettre que Paul adresse à l'église de Philippe, comme vous l'avez remarqué. Et à la lecture de cette épître, nous constatons d'emblée que Paul nourrit une affection particulière pour les chrétiens de cette communauté. Ce qui frappe, dès les premières lignes, c'est le ton, le registre tout personnel et chaleureux que Paul adopte. Ainsi, nous pouvons lire, dès le début de l'épître, ce qui n'est pas ce que vous avez entendu tout à l'heure, « J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Je prie pour vous en toute occasion, et c'est avec joie que je le fais. Oui, je remercie Dieu, car depuis le premier jour jusqu'à maintenant, par le soutien que vous m'avez apporté, vous avez contribué à l'annonce de la bonne nouvelle. » Et j'en suis fermement persuadée, celui qui a commencé en vous une œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Alors là, c'est frappant, c'est manifeste. Le lexique employé rend bien compte de l'enthousiasme et des sentiments que l'apôtre ressent pour cette communauté. Et c'est vraiment un sentiment tout particulier. Ce ton si chaleureux, d'ailleurs, contraste avec la rhétorique que l'apôtre déploie dans les autres épîtres pour convaincre la plupart du temps de la justesse de ses vues théologiques. Car Paul, le plus souvent, a maille à partir avec la plupart des églises qu'il a fondées. En effet, quand il s'adresse à l'église de Galate, Paul n'est pas tendre. Dès les salutations, il rappelle avec force la pleine autorité de son apostolat, car il sait que sa lettre devra opposer de solides arguments aux détracteurs qui se sont introduits dans la communauté. Pensez aux Corinthiens. Avec les Corinthiens qui ont un sentiment d'orgueil, qui s'enflent un petit peu parce qu'ils sont remplis des dons de l'esprit, dons de connaissances, dons de prophétie, parler en langue, etc. Paul les reprendra vivement en leur faisant savoir que c'est l'amour qui surpasse tous les dons de l'esprit. Bref, force est de constater, alors que la communauté des Philippiens jouit d'un statut tout particulier auprès de l'apôtre, que cette communauté-là, elle a quelque chose de particulier. Nous savons que les Philippiens soutenaient financièrement l'activité missionnaire de Paul. C'est une attitude qui semble avoir été unique. Aucune autre des églises qu'il a créées ne semble avoir eu un souci missionnaire comme celle de Philippe. Aussi, Paul perçoit dans cette générosité la preuve d'un partenariat de cœur entre l'église de Philippe et lui-même. Et surtout, une œuvre bonne que le Seigneur a déjà entrepris parmi eux. En effet, les Philippiens ont déjà l'amour. Ils sont remplis de cet amour divin qui les conduit à prendre part aux soucis missionnaires de Paul et à le soutenir financièrement. Alors qu'ils sont à peine convertis, ils expriment déjà leur foi par les actes. Aussi, on aurait pu penser que Paul se limiterait à les féliciter et à se réjouir avec eux. Or, il n'en est rien. Paul les exhorte à toujours progresser et à s'insérer dans la logique de ce que Dieu est en train de parfaire. Alors, parfaire, on va faire un peu d'étymologie. Parfaire, ça vient du latin persifere, qui signifie faire complètement, achever. Et on voit bien que là, Dieu, en tout cas Paul, souhaite dire aux Philippiens que Dieu est en train de parfaire une œuvre en eux, ce qu'il a déjà mis. Il a déjà mis quelque chose de bon en eux et il va achever cette œuvre qu'il a commencée en eux. Ainsi, au verset 9 à 11, qu'Hélène a pu lire, l'apôtre n'a d'autre souhait à formuler pour les Philippiens que le perfectionnement de leur amour. Paul, porte-parole du Seigneur, souhaite pour ses enfants le meilleur. Le meilleur, c'est bien l'excellence. Et celle-ci, elle est exprimée à travers des expressions telles que « de plus en plus », « je souhaite vous voir progresser de plus en plus », qui renvoie à l'idée de progrès, hein, cette expression. Mais aussi, on a l'expression « en pleine intelligence ». Et bon, dans le texte qui est paru tout à l'heure, on avait « en toute sensibilité ». Hein, moi, j'avais « en pleine intelligence ». « En pleine intelligence » évoque un haut degré de l'entendement humain. Et enfin, on a l'emploi du superlatif « les meilleurs », que vous soyez fait pour les choses « les meilleurs ». Donc, il s'agit bien ici donc, d'atteindre l'excellence. Alors, pour entrer dans ce parcours de perfectionnement, l'exhortation de Paul repose sur deux termes clés, la connaissance et le discernement. Parce qu'en fait, la question qui se pose, vous allez voir, on va parler de l'amour, la question qui se pose, c'est comment l'amour permet-il de discerner ce qui relève de l'excellence pour Dieu ? Et il n'est pas étonnant que l'amour soit au centre de tout ce que Dieu attend de nous et nous demande. Alors, une question s'impose. Dans quelle mesure l'amour est-il lié à la connaissance et de quelle connaissance peut-il bien s'agir ? Si Paul mentionne que l'amour s'appuie sur la connaissance, cela implique que l'amour dont il est question ici n'est pas inné, pas naturel. Et d'emblée, nous comprenons qu'il ne s'agit pas d'un amour humain. Cet amour humain pétri de nos propres sentiments, parasité par notre vécu, nos blessures d'enfance et notre ego aussi, il faut bien le reconnaître. Il s'agit ici d'un amour qui nécessite un certain dépassement de soi, impossible à atteindre par nos seules qualités humaines. De toute évidence, il s'agit de l'amour agapé. On n'a plus besoin de définir ici, je pense. C'est cet amour qui consiste à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, et de toute notre pensée. C'est un amour qui consiste à aimer l'autre aussi, quel qu'il soit, et comme soi-même. Ce sont là les commandements divins qui sont rappelés par Jésus dans l'évangile de Matthieu. Est-il nécessaire de préciser que leur réalisation dans notre vie implique forcément un renoncement à soi, à nos désirs les plus chers parfois, à nos ressentiments les plus forts aussi, envers certains ou envers certaines choses ? Aimer selon le commandement divin, c'est déjà un choix de notre part, dans la mesure où cet amour ne nous est pas naturel et nécessite une volonté sans faille, une réelle prise de décision. Mais faire ce choix-là, n'est-ce pas déjà faire le choix de l'excellence ? Toutefois, à travers cette épître, Paul nous dit que ce choix-là ne peut se faire sans un enseignement, sans la connaissance. Mais alors, de quel ordre est cette connaissance qui peut conduire à l'excellence ? Comment nous parvient-elle ? Et pourquoi Paul insiste-t-il sur ce fait ? Les Philippiens semblent déjà très disposés pour obéir au commandement d'amour, rappelons qu'ils financent l'activité de Paul pour l'avancement de l'Évangile. En revanche, ils connaissent au sein de leur communauté quelques soucis d'entente mutuelle. Effectivement, deux anciennes collaboratrices de Paul étaient à présent opposées par un différend suffisamment important pour que l'apôtre en soit informé. Au chapitre 4 de l'épître aux Philippiens, au moment de clore sa lettre, Paul recommande à Évodie et à Syntyche, deux femmes, de vivre en parfaite harmonie l'une avec l'autre, selon le Seigneur. La mention du nom des deux personnes dans une lettre destinée à être lue devant l'Église montre que Paul prend le problème très au sérieux et qu'il va de soi pour l'apôtre que l'amour au sein de la communauté doit nécessairement s'exprimer au travers de l'unité. Voici donc l'une des raisons, entre autres, pour lesquelles Paul écrit aux Philippiens qu'ils ont besoin de parfaire l'amour qui est déjà en eux. Et on peut penser qu'ils prient pour qu'ils comprennent comment obéir au commandement divin d'amour mutuel. Dans le contexte des Philippiens, alors que le Nouveau Testament est en train de s'écrire, c'est à la lumière de la Torah et des événements récents, c'est-à-dire la crucifixion de Christ, que la mise en œuvre de cet amour peut s'accomplir. Et cela va passer essentiellement par les enseignements de Paul, ses paroles et ses épîtres. Et aujourd'hui, pour nous, qu'en est-il ? Aujourd'hui, nous, en revanche, nous disposons bel et bien de la parole biblique dans son intégralité. Et c'est à travers l'enseignement que cette parole dispense que nous apprenons à aimer et à suivre Dieu selon le commandement divin. La simple lecture de ce grand et beau livre, même quand elle exempte de l'Esprit de Dieu. Comme toute littérature, elle suscite d'ores et déjà divers processus, divers mécanismes d'assimilation qui se mettent en place lors de la lecture. Ces divers processus d'assimilation sont à l'œuvre chaque fois que nous lisons n'importe quel texte. Faisons ensemble le tour de ces processus que nous appellerons méthodologie et auxquels nous avons recours le plus facilement et le plus fréquemment quand nous lisons la Bible et dans notre relation avec le Seigneur. La première petite méthodologie, qui n'est pas la plus gratifiante, pourrait bien être la mémorisation des versets. Bon, comme on l'a déjà dit, il faut bien reconnaître que ce n'est pas la plus agréable à pratiquer. En revanche, celle qui atteint le plus notre sensibilité, c'est probablement celle qui repose sur le processus d'identification qui se met en place quand nous nous représentons la vie des grands hommes de ce grand livre. En effet, s'identifier aux personnages célèbres de la Bible, les prendre en référence et vouloir les imiter, est un moyen de suivre et d'appliquer les commandements divins. Entrer dans la vie de ces êtres qui ont suivi Dieu et qui ont été éprouvés par lui nous permet de vivre des émotions par procuration et nous fait entrevoir la façon dont Dieu a procédé ou procède encore avec ceux qui lui sont fidèles. Alors, pour illustrer cette petite méthodologie, cette deuxième petite méthodologie, je crois que nous pouvons puiser dans la biographie d'une chrétienne remarquable, Lydia Prince, que certains connaissent peut-être, en tout cas vous connaissez pour la plupart Derek Prince, son époux. Lydia Prince fut la première épouse de Derek Prince. La plupart d'entre vous le connaissent. Il est d'ailleurs reconnu comme l'un des docteurs de la Bible les plus éminents de notre époque. Et il est l'auteur d'une kyrielle d'ouvrages sur la vie chrétienne. Bref, avant son décès en 1975, Lydia a raconté son histoire dans un ouvrage intitulé « Rendez-vous à Jérusalem » et que bien entendu je vous recommande. Son histoire, c'est celle d'une agnostique de 36 ans, une Danoise, qui a renoncé à une vie de confort matériel et de réussite professionnelle pour une vie de danger et de pauvreté dans la ville de Jérusalem. À cette époque, ça se situe durant l'entre-deux-guerres, il y avait des combats. Les combats avaient commencé entre les Juifs et les Arabes. Et la vie n'était pas facile à Jérusalem. Absolument pas. Là, Dieu lui confia un orphelinat. Mais la première petite fille juive qu'elle sauva de la misère et d'une mort certaine fut aussi l'occasion d'une grande épreuve pour elle. Sa peine et son désarroi furent immenses quand, au bout d'une année, le père vint réclamer l'enfant pour des raisons d'intérêt personnel qui faisaient fi des besoins de l'enfant. Alors c'est ici que la lecture biblique et l'identification aux grands personnages de la Bible a opéré dans la vie de Lydia. Et voici ce qu'elle rapporte. « Quand l'homme est à la dernière extrémité, Dieu l'appelle à un rendez-vous. C'est l'exemple d'Abraham qui m'a finalement décidé à abandonner ma situation à l'école de Corsor. C'est le nom de l'école dans laquelle elle jouissait d'une grande réputation parce qu'elle était excellente. Je veux maintenant être attentive aux étapes successives par lesquelles Dieu l'a conduit quand il a quitté son pays natal, puis quand Dieu lui demanda de rendre Isaac et de le lui offrir en sacrifice. Je peux lire qu'Abraham doit faire 3 jours de marche avec Isaac jusqu'au mont Morija, qui est l'endroit désigné pour le sacrifice. Je me demande ce qui lui passe par l'esprit pendant ce long voyage. Quelles questions intérieures il se pose, quels conflits il doit avoir. Bon, je ne poursuis pas, c'est extrêmement intéressant tout ce parcours d'identification dans lequel elle va rentrer, elle va essayer de revivre le trajet d'Abraham sur ce trajet qui le conduit à Morija où il doit sacrifier son fils. Et c'est en s'imaginant, en essayant de vivre ce qu'a vécu Abraham, qu'elle va comprendre pourquoi Dieu lui a enlevé cet enfant à laquelle elle s'est attachée et qui n'a aucune raison de revenir sur un plan rationnel cet enfant n'a aucune raison de revenir dans les bras de son père puisqu'il n'a pas les moyens de l'éduquer. Voilà donc rapporté très succinctement comment Lydia reprend le parcours d'Abraham, entre dans cet espace de vie où Dieu a œuvré et en tire un enseignement pour elle-même. Elle finira par comprendre pourquoi la petite fille juive lui a été reprise, temporairement seulement, et pourquoi Dieu a agi ainsi. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur cette démarche. Je veux juste la mentionner, l'évoquer. Je veux juste montrer que cette démarche empruntée par Lydia, ici, est fréquente chez le chrétien. C'en est une, et non la moindre, parce qu'elle consiste à s'identifier aux personnages célèbres de la Bible pour mieux comprendre la façon dont Dieu agit dans notre vie. Nous pouvons l'identifier comme la deuxième mythologie à laquelle nous recourons le plus fréquemment, mais aussi comme l'approche peut-être qui nous parle le plus. Observons à présent les autres approches qui s'éloignent un peu du domaine rationnel. En effet, dans notre vie chrétienne, toute action n'est-elle pas précédée d'un exercice secret avec le Seigneur ? Les petits signes concrets que nous demandons pour nous assurer du choix de Dieu dans notre vie, à la façon de Gédéon par exemple, ne sont-ils pas la marque d'une relation secrète avec lui, en dehors et à l'écart de toute rationalité ? On peut voir là aussi, quand nous demandons des signes à Dieu, on peut voir là aussi une troisième approche dans notre relation secrète avec lui. Et puis enfin, il y a un autre procédé qui intervient lors de la lecture biblique et qui mérite d'être mentionné ici, je crois, c'est celui de la parole révélée. Nous l'expérimentons quand l'Esprit Saint vient s'associer au texte biblique pour nous enseigner ou nous orienter dans nos choix. Pour illustrer ce procédé, nous pouvons encore puiser dans la biographie de Lydia Prince. Malgré sa détermination, après avoir reçu un appel fort pour s'installer dans la ville de Jérusalem, et après plusieurs mois, Lydia, ne voyant pas ce que Dieu attendait d'elle dans cette ville, mais voyant ses ressources financières s'amoindrir de façon considérable, elle commence à croire que Jérusalem n'est qu'une étape dans le projet que Dieu a pour elle. Elle décide alors de répondre favorablement à l'offre d'emploi d'une grande école de Beyrouth qui lui propose un poste de professeur d'économie très bien rémunéré. Alors que sa décision est prise, sa lecture biblique du jour s'ouvre sur le psaume 136. Et voilà que l'Esprit est à l'œuvre. Lydia reconnaît le verset sur lequel elle était tombée le tout premier soir de son arrivée à Jérusalem et qui saluait sa venue en laissant entendre ses paroles. « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. » L'apparition à nouveau de ce verset, à ce moment précis de la vie de Lydia, viendra dissiper le doute qui s'était emparé d'elle. Nous pouvons repérer donc dans cette expérience un autre procédé pour parvenir à la connaissance que dispense l'Esprit Saint, afin de nous révéler sa volonté. Encore faut-il être attentif à ces signes que nous envoie l'Esprit. Être capable de reconnaître la voix de Dieu dans ce hasard de lecture paraîtra insensé aux yeux de nos contemporains. Pourtant, cela semble bien s'apparenter à un autre don que Paul va mentionner et qui semble encore plus élaboré que la connaissance intellectuelle. Il s'agit du discernement. En effet, Paul, dans son épître aux Philippiens, dit que l'amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Le discernement résulte à la fois de la connaissance et de l'expérience. Pour l'acquérir, il faut faire preuve d'une certaine hygiène d'esprit, pourrait-on dire, et se défaire de tout ce qui pourrait parasiter l'acquisition de ce suc, comme nos habitudes de pensée, qui sont souvent semblables à celles du monde, nos émotions, qui englobent la crainte ou la douleur, nos projections et notre subjectivité aussi. D'où le concours de notre intelligence, d'un certain raisonnement. L'apôtre emploie l'expression « en pleine intelligence », et ce n'est pas pour rien. Le discernement est un don précieux dans la mesure où il nous conduit à distinguer entre ce qui relève d'une façon toute personnelle d'aimer et une approche qui consiste à aimer selon la volonté divine. Pour illustrer ce propos, nous allons opposer l'attitude de deux personnages féminins dans le Nouveau Testament. Deux femmes qui se nomment toutes deux Marie, Marie de Magdala et Marie de Béthanie. Toutes les deux ont bien connu Jésus. Elles l'ont côtoyé, elles ont été à l'écoute de son enseignement, et cependant, elles adopteront deux attitudes différentes face à la mort de Jésus. Parfois, Nous nous égarons par manque de discernement, tant nous sommes habitués à la pensée du monde. L'exemple de Marie de Magdala, après la mort de Jésus, semble assez bien illustrer ce cas. Après avoir été délivrée de 7 démons, Marie de Magdala n'a pas quitté Jésus. Elle l'a suivi jusqu'au pied de la croix, elle a pu entendre tout l'enseignement qu'il a délivré. Et cependant, elle va s'égarer. Après la crucifixion, elle se rend au tombeau, ainsi que d'autres femmes, avec des huiles, des aromates et des parfums, comme la tradition le voulait, pour embaumer le corps de Jésus. Mais voilà, le corps n'y est plus. Évidemment, Jésus est ressuscité, et en plus, il l'avait annoncé plusieurs fois à ses disciples lors de son vivant. Marie n'a pas pu ne pas l'entendre. Mais dans son désir d'observer la tradition, elle s'est égarée, et son dévouement ne fut pas perçu comme un acte juste aux yeux de Dieu. Elle sera reprise d'abord par les anges qui demanderont aux femmes, et elle y compris, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?»« Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. » Rappelez-vous ce qu'il disait quand il était encore en Galilée. Effectivement, Jésus leur rappelle les paroles qu'il a, les anges rappellent les paroles que Jésus avait prononcées. Dans l'évangile de Jean, nous pouvons lire aussi le passage où c'est Jésus lui-même qui reprend Marie. En effet, il lui dira, « Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Même si on peut s'imaginer que Jésus prononce ses paroles avec douceur, par ses paroles, il semble lui dire, « Mais que fais-tu là? N'as-tu donc rien compris ?» Relevons au passage tout de même l'attitude bienveillante de Jésus envers les femmes quand il les reprend. C'est plutôt avec douceur, ce n'est pas forcément le cas avec Pierre quand il est repris. Bref, face à Marie de Magdala, il y a l'autre Marie, Marie de Béthanie, celle qui prit un demi-litre de nard pur, un parfum très cher pour le répandre sur les pieds de Jésus et les essuyer ensuite avec ses cheveux. Devant la désapprobation de Judas Iscariote qui propose de vendre ce parfum et de le donner aux pauvres, Jésus prendra sa défense et dira « Laisse-la faire, c'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. » Cet acte est approuvé par Jésus, même s'il peut paraître insensé aux yeux des disciples. Car cet acte suppose que Marie de Béthanie avait bien retenu l'enseignement de son maître et qu'elle s'attendait à ce qu'il meure bientôt. Sachant qu'il ne serait pas possible d'embaumer sa dépouille, elle a préféré accomplir ce geste de son vivant. Elle a bien fait preuve de discernement. Marie de Béthanie, assise aux pieds de Jésus pour écouter sa parole, avait donc acquis une connaissance qui faisait défaut à Marie de Magdala. Aussi n'est-elle pas venue au sépulcre. À vue humaine, cela pourrait être interprété comme un manque d'amour pour le Seigneur. Et en s'arrêtant aux apparences, on pourrait affirmer « Nul n'a aimé le Seigneur comme Marie de Magdala ». Certes, son amour était précieux pour Jésus, puisqu'il l'a valorisé en la chargeant d'annoncer sa résurrection aux disciples. Il n'en demeure pas moins que seul l'amour de Marie de Béthanie a abondé en connaissances. Elle a pu accomplir un acte par lequel elle reconnaissait et affichait aux yeux de tous la souveraineté de Jésus, son statut de roi. Et ça, c'est important. Et ça, c'était certainement ce que Dieu attendait. Que ce parfum de nard, la symbolique de ce parfum, vienne rendre à Jésus sa souveraineté, lui qui allait être crucifié comme un voleur, comme un criminel sur la croix. Par son discernement, elle a pu rendre au Fils de Dieu l'honneur qui lui revenait. Et en cela, son acte relevait de l'excellence au lieu de l'éternel. On peut le penser en tout cas. Elle a été capable d'aimer selon Dieu, d'accomplir un acte divinement inspiré. À cela s'oppose l'autre attitude, celle qui consiste à aimer selon soi-même, sans que ce soit une critique, selon soi-même, c'est-à-dire selon nos propres représentations de l'amour, qui sont à la fois culturelles, sociales et émotionnelles. Nous l'avons vu, l'amour pour Jésus, quand il s'appuie sur la connaissance et le discernement, conduit à des actes d'excellence, on peut dire. Dans le deuxième livre de Samuel, nous pouvons lire encore un acte qui relève de l'excellence et de l'amour divin. L'exemple des trois vaillants guerriers de David nous délivre un double enseignement. David s'était réfugié dans la grotte d'Adoulam. Il était traqué et persécuté par Saül et nous pouvons lire dans ce deuxième livre de Samuel qu'il eut un brûlant désir. En fait, il exprima un souhait. Qui me fera boire de l'eau du puits qui se trouve à la porte de Bethléem ? Bethléem, c'est son village natal. Et il est encerclé par les Philistins. Oui, il était occupé, encerclé par les Philistins. Et pour s'y rendre, il fallait forcer le passage à travers le camp des ennemis au péril de sa propre vie. Aucun ordre n'avait été donné. Personne n'avait été désigné pour cette mission. Il n'y avait eu que l'expression d'un désir, et c'est ce qui avait donné l'occasion de manifester un amour sincère et un vrai dévouement. Un ordre de la part de David aurait fourni l'occasion d'une prompte obéissance, mais l'expression d'un désir a révélé l'attachement des trois guerriers à la personne de David, donnant lieu ainsi à un acte de bravoure de grand prix. De plus, ce fut un acte entièrement désintéressé. Ces trois guerriers n'ont pas agi ainsi pour se faire un nom ou pour obtenir une promotion. Ceci aurait enlevé à leur geste toute sa valeur. Seul leur attachement à David, l'envie d'offrir quelques satisfactions à leur chef et de rafraîchir son âme, a motivé leur acte. David reconnaîtra l'excellence de cet acte, qu'il honorera en refusant de boire de cette eau du puits de Bethléem, et il en fera une libation pour l'Éternel. Bref, ces trois valeureux guerriers n'imaginaient certainement pas que leur acte de dévouement serait consigné dans les pages du grand livre de la Bible. Encore aujourd'hui, nous pouvons tirer un enseignement de leur prouesse qui fonctionne comme une allégorie, une image de l'amour du chrétien pour le Seigneur. On peut voir à travers David et à travers l'amour de ces trois guerriers, l'amour que le chrétien, l'amour passionné que le chrétien peut ressentir pour Dieu son Seigneur. Cet amour-là ne s'invente pas, il n'est pas humain, il vient d'en haut. Et cette sublime volonté qui consiste à accomplir les désirs de notre Père Céleste est probablement la forme excellente de l'obéissance qui ignore tout de la soumission. On peut voir à travers cet acte des trois guerriers, que la notion d'obéissance disparaît. Quand on aime quelqu'un, quand on veut faire plaisir à quelqu'un, eh bien, obéir à sa loi, à ses commandements, ce n'est plus un acte de soumission, ce n'est même plus un acte d'obéissance. Hein, c'est un acte d'amour, tout simplement. Voilà, au terme de cet exposé, nous saisissons combien l'excellence dans la vie, dans la société, c'est ce qui fait la différence. Ainsi, Lydia Prince a excellé dans sa recherche de la tâche particulière que Dieu lui avait assignée. Elle qui affirmait « Je n'ai pas à planifier l'œuvre que j'aurais à faire dans ma vie, j'ai à découvrir celle que Dieu a déjà planifiée pour moi. » Marie de Béthanie a excellé dans son amour pour Jésus et par son discernement, elle a su voir ce qu'aucun autre à part elle n'avait saisi. La mort imminente du maître. Bien qu'elle avait été annoncée par Jésus lui-même, les disciples ne l'avaient pas retenue. Enfin, les trois valeureux guerriers de David ont excellé dans leur désir de satisfaire leur chef, donnant à voir, ou plutôt à lire, ce qu'il y a de beau dans l'amour. Voilà, puissions-nous avoir soif d'excellence, et merci pour votre écoute.